Philippe Charlaise.
Oui, moi simplement, que pensez-vous du service militaire ou du moins de l'armée? Je suis peut-être un des seuls autour de la table à avoir fait son service militaire. Non,
Pas du tout,
Franck
on est
Herriot,
trois.
lève la main, l'a fait aussi. Nous sommes, mon cher Franck, effectivement hors normes. Et je me suis aperçu quand j'ai fait mon service militaire qu'en fait, j'avais rencontré des délinquants qui faisaient leur service militaire et je dois dire que l'armée les met vraiment au pas parce que, je vais dire, il y a une forme de justice en fait parallèle et contre laquelle c'est beaucoup plus complexe de se révolter. Donc est-ce que vous ne pensez pas que ces jeunes qui sont complètement sortis des normes et qui n'ont plus aucune règle, l'armée ne peut pas être une solution?
Si, tout à fait.
Jacques, Monsieur le procureur Jacques Dallest, pour
Oui.
conclure. Oui.
Non, je pense que je parlais du sport parce que c'est une discipline, le sport, quel que soit le sport, on le sait. C'est une maîtrise de soi, c'est le respect des autres, du collectif.
Et
Et
des
évidemment,
règles.
l'armée, c'est un peu la même chose. L'armée, c'est encore plus une discipline, c'est des horaires, c'est une obéissance. C'est aussi, et c'est à la force de l'armée, d'arriver à faire en sorte que le jeune ait du respect pour lui-même. Souvent, ces jeunes-là, comme ils ont peu de respect pour eux-mêmes, parce qu'on les traite quelquefois de bons à rien, etc., ils n'ont pas de respect pour les autres. Le jour où ils découvrent qu'ils ont un potentiel sportif ou autre, et je sais et qu'ils sont souvent, les jeunes, très fascinés par le monde de l'uniforme. Pas seulement l'armée, mais aussi la police. C'est étonnant de voir ces jeunes qui attaquent la police. Pour certains, quand ils ont un uniforme, ils sont là. Ils sont impressionnés et certains aimeraient savoir comment on s'engage dans la police. Moi, je crois beaucoup à l'armée, effectivement. Il y avait des centres de formation, je crois qu'on appelait ça les EPID. Je ne sais pas où c'en est aujourd'hui, où des jeunes étaient un peu encadrés avec un uniforme pour leur donner une discipline. C'était sur la base du volontariat. Et ça, là, ils se découvrent un potentiel, des valeurs, des vraies valeurs de camaraderie qu'ils n'ont pas parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et que finalement, ils savent qu'il n'y a pas d'issue à ce genre de comportement. Et l'armée, il n'y a plus de service national, on le sait, c'est compliqué à organiser, est un vrai cadre structurant pour ces jeunes. Et certains, même, ils restent. Moi, je me souviens avoir discuté avec un type d'origine yougoslave, comme on disait à l'époque. C'était un marginal, un délinquant. Il est rentré à la Légion étrangère, parce que j'étais en poste à Marseille, comme vous l'avez rappelé,
Oui. Alors la
le
Légion,
siège
c'est
de la
encore
Légion à
une
Aubagne.
branche un peu particulière dans l'armée,
C'est encore un
hein.
peu particulier, mais il s'est fait toute une vie sociale. Et il a quitté la Légion avec un grade de commandant.
Ah oui,
Et il dit, je m'y suis marié.
impressionnant.
Et ce gars-là aurait été un délinquant. Alors c'est vrai que la Légion, c'est très particulier, qui récupère beaucoup de jeunes en errance à l'étranger. Mais moi, je crois beaucoup à ça. Alors, évidemment, l'armée ne peut pas garder aussi des individus qui ont des pathologies, hein, ou qui commettent des actes graves. Mais effectivement, ça me semble une bonne réponse qu'il
Il y avait de
faudrait
la
développer
délinquance.
encore.
Tout de même, quand il y avait le
Ouais.
service national, il y avait quand même
Pierre-Marie
déjà
Seb.
beaucoup de délinquance. Donc
Bien
c'est
sûr.
sûr que ça peut pas être une réponse unique. Mais rien ne sera
Et vous
réponse
savez,
unique, naturellement.
j'étais en poste à Marseille et on s'occupait sur l'arc méditerranéen des affaires dites pénales militaires, c'est-à-dire quand il y avait des actes de délinquance commis au sein de l'armée, armée de l'air, marine et armée de terre. On les traitait au tribunal de Marseille et les responsables, les chefs de corps et tout ça nous disaient qu'ils sont aussi confrontés à la délinquance, même sur les bateaux embarqués dans la marine nationale, des jeunes déstructurés qui continuent à trafiquer, etc.
Ça.
Certains sont exclus, évidemment, d'autres abandonnent ce genre de pratique, mais ils ont aussi, c'est transposé dans l'armée, tout ce qui se passe à l'extérieur, dans la société, peut toucher également le cercle militaire.
Du sport, donc, et de l'ordre serré, comme on disaient à l'époque, c'est-à-dire apprendre à marcher au pas. Merci, monsieur le procureur général Jacques Dallest. Vous avez été procureur et juge d'instruction, notamment à Ajaccio, Grenoble, Marseille. Vous avez été à l'origine du pôle Cold Case à Nanterre. Et je recommande vos deux derniers livres, Sur les chemins du crime, qui est paru en 2024, et puis Cold Case, un magistrat enquête. C'était en 2023. Les deux livres sont publiés chez Mareuil Édition. Merci beaucoup de nous avoir éclairés ce soir.
Merci à vous.
Voilà, nous allons retrouver tout de suite, je vous propose d'écouter Agnès Evren, c'est la sénatrice LR de Paris. C'était le 1er juin sur BFM TV. Est-ce que c'est vraiment un problème de sanctions?
Ce laxisme judiciaire depuis des décennies, cet effondrement de l'autorité, cet effacement de l'autorité parentale. Et c'est là-dessus qu'en effet, je pense que les jeunes, il y a beaucoup de mineurs qui sont concernés, 90, il faut en effet associer le mot éducation au mot sanction.
Voilà, éducation et sanction, c'est un petit peu ce que disait le procureur général Jacques Dallest, hein, Pierre-Marie Sève.
Oui, c'est certain.
Mais est-ce que la sanction est suffisante? Parce que j'ai un de vos tweets sous les yeux, vous dites on atteint des records de laxisme judiciaire, tout simplement, c'est tout simplement dingue. Et puis vous citez un exemple, justement, celui du collier, zéro minute de prison. Voilà.
On va insulter, cracher sur des policiers, voler un collier, etc., etc., rébellion, enfin bon, bref, tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que le laxisme judiciaire, c'est difficile de revenir sur l'ensemble des mécanismes qui dysfonctionnent et pour mener aux résultats qu'on connaît et sur lesquels 8 Français sur 10 s'accordent, c'est-à-dire que la justice est trop laxiste, mais je vais vous le faire très simplement. On a 3 temps où le laxisme peut s'exprimer au cours d'une procédure. On a d'abord l'opportunité des poursuites. La police ne traite toutes les plaintes, on l'espère, pas toujours sûr d'ailleurs, mais elle ne va évidemment pas transmettre au procureur, en tout cas le procureur ne va pas poursuivre l'ensemble des plaintes qu'il reçoit, c'est logique. Mais on peut considérer que parfois il poursuit trop peu. Je vous donne un seul exemple, il y a un procureur en Seine-et-Marne, là, il y a 1 ou 2 ans, qui avait dit que tout simplement il y avait eu trop de plaintes chez lui, en attente d'ailleurs, et qu'il fallait les classer sans suite de manière industrielle.
D'évider le tiroir, quoi.
Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il n'avait pas tout à fait tort, c'est vrai, des procédures qui sont anciennes, mais le problème, c'est que c'était du classement sans suite de masse, avec des milliers, voire des dizaines de milliers de procédures, et ça se fait très régulièrement. Et donc, aujourd'hui, on sait tous que la grande majorité des plaintes qu'on dépose ne donnent pas lieu à une poursuite. Donc ça, c'est le premier lieu, c'est le premier temps où le laxisme peut s'illustrer, c'est le temps de l'opportunité des poursuites. La justice, les procureurs vont-ils poursuivre les infractions? Deuxièmement, quand bien même le procureur...
C'est la première fuite, si on peut dire, c'est ça.
Voilà.
Dans le dispositif.
Absolument. Ouais. Et est-ce qu'il va les renvoyer devant le tribunal? Parce qu'il a aussi tout un tas d'options pour ne pas renvoyer devant le tribunal une personne qu'il connaît pourtant et qui sait qu'il a commis des crimes et des délits. Ou des délits. Enfin, des délits en l'occurrence. Deuxième temps, c'est le prononcé des jugements. Est-ce que les juges prononcent des peines trop laxistes? C'est le temps le plus évident. Et là, justement, à l'Institut pour la Justice, nous avons voulu faire un exercice que jamais personne n'a fait. Et nous sommes tombés sur des chiffres du casier judiciaire national qui était perdu dans un tiroir du site internet du ministère de la Justice que nous avons exploité et qui nous a permis d'arriver à la conclusion que, en moyenne, la justice condamne les délinquants à 19% de la peine prévue par le code pénal. Le code pénal, c'est pas un indicateur qu'on a sorti de nulle part comme ça.
19%, c'est-à-dire qu'on est vraiment en bas de l'éventail, si
absolument.
On peut dire.
Un cinquième des peines, de la durée des peines prévues. Alors que le code pénal est supposé nous donner un petit peu des lignes directrices et de supposer donner ça aux juges. Mais non, la pratique, le nombre, peut-être la poétisation, enfin, pour plein de raisons, les juges prononcent 19% en moyenne des peines prévues par le code pénal.
Donc, encore, il peut y avoir des réductions de peine.
C'est le troisième temps. L'exécution de la peine. Alors déjà, vous avez eu peu de chance d'être poursuivi alors même qu'il y avait une plainte contre vous. Bon, si vous avez vraiment pas de chance, vous avez été poursuivi, vous avez été condamné, vous avez une peine pas trop lourde, hein, 19% de la peine prévue, mais vous avez encore un échappatoire, c'est l'exécution des peines. Et là, je vous donne aussi un chiffre que nous avons trouvé à l'Institut pour la Justice il y a 4 ans, qui était un chiffre que nous avons eu du mal à trouver. Nous avons beaucoup calculé, nous avons pris plein de ratios. Enfin bref, je vous épargne tout ça en étant en communication directe avec le service statistique du ministère de la Justice pour arriver à un chiffre qui était confirmé par le ministère l'année suivante. En moyenne, 41% des personnes condamnées à une peine de prison ferme, donc on ne parle pas des sursis là, qui sont l'écrasante majorité des peines prononcées pour les émeutiers. Quand bien même vous êtes condamné à une peine de prison ferme, 41% d'entre eux ne vont même pas passer une minute en prison parce que leur peine est aménagée tout de suite. Pour les autres, ça sera aménagé plus tard, mais pour 40%, c'est aménagé tout de suite.
40%, c'est considérable, c'est presque 1/2.
Donc vous n'avez déjà pas eu de chance, ok, vous avez une plainte contre vous, vous n'avez pas eu de chance, le procureur vous a poursuivi, il vous a même renvoyé devant un tribunal, ça c'est assez rare. Vous avez été condamné ensuite à une peine de prison. C'est assez rare et elle ne sera que de 19% de la peine que vous encourriez. Et bah derrière, vous avez encore 4 chances sur 10 d'échapper à la prison. Et donc la justice qu'on voit là, parce qu'on n'a pas si souvent plein de journalistes dans les salles d'audience, là en l'occurrence c'est le cas pour les émeutes du PSG, tant mieux pour ça, nous permet de voir que ces peines-là sont tout à fait dans la pratique. Dans la pratique habituelle. Moi, j'en ai parlé avec pas mal de magistrats. Ça n'a étonné personne, les peines sur les émeutiers du PSG. Parce que c'est toujours comme ça. Oui, on a certaines difficultés liées à l'identification, les preuves, okay, etc. Mais de manière générale, c'est toujours comme ça. Pas un magistrat avec qui j'en ai parlé, j'ai dû en parler avec 4 ou 5 magistrats depuis lundi, pas un n'a été surpris. Donc, évidemment, que quand on a une justice si laxiste, 8 Français sur 10 trouvent qu'elle est laxiste. Ceux restants sont à gauche et nient que le laxisme existe, mais 8 Français sur 10 l'ont bien compris. Ces 8 Français sur 10 ne sont pas fous, certes ce ne sont pas forcément des juristes ou des experts criminologues, mais ils voient bien dans leur vie personnelle, quand on a un cousin qui se fait agresser, quand on a quelqu'un de notre entourage, un voisin qui a un problème, on sait bien que la justice ne répond pratiquement jamais. Jamais. Et on voit bien l'affaire de Liana, il faut attendre le meurtre, l'assassinat très probable maintenant, probablement avec des sévices sexuels, on peut l'imaginer, sur une petite fille de 11 ans. On sait qu'on est dans l'abominable complet. Il faut arriver à ce genre de cas pour qu'enfin les pouvoirs publics se disent qu'il faut muscler la réponse pénale. Et encore, on n'a pas encore le jugement.
Ouais,
donc la justice française est dans un désastre, dans une faillite lente qui existe depuis longtemps, mais qui continue à s'aggraver, et aucun de nos responsables politiques n'en prend la mesure, en tout cas ceux qui sont au pouvoir depuis 40 ans.
Alors, vous parliez, Franck Herriot.
Ouais, ouais. Comment expliquez-vous le nombre faramineux de prisonniers qu'on a dans les prisons françaises ? On arrive au 1er mai, on était à plus de 88 000, presque 89 000 détenus.
Alors moi, j'ai une théorie. Je pense alors déjà que nos prisons sont complètement sous-dotés. Nous sommes complètement sous-dotés en termes de prison. Nous n'avons pas assez de prison. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, en 2017, jurait la main sur le cœur.
Au niveau européen, on est dans le peloton de tête au nombre de détenus.
Parce que nous sommes parmi les plus peuplés. Mais nous sommes aussi...
Non, mais vous avez aussi l'Allemagne,
mais on est le deuxième plus peuplé d'Europe.
La Grande-Bretagne,
mais on a une délinquance beaucoup plus élevée qu'en Allemagne, par exemple. Ça, c'est évident. Il y a tout un tas de classements internationaux, européens, qui montrent bien que la France est dans le trio de tête sur à peu près chaque infraction au niveau européen. Donc, c'est logique. C'est parce qu'on a aussi plus de délinquance qu'ailleurs. Mais effectivement, ce qui est vrai, c'est que ça a beaucoup augmenté ces 2-3 dernières années. Et moi-même, je me posais la question. J'avais du mal à comprendre parce que la justice est tellement organisée pour libérer les gens et tous les mécanismes que je vous ai décrits qu'on se dit mais il faut vraiment que la délinquance augmente énormément pour que effectivement on ait eu une inflation carcérale ces 3 ou 4 dernières années, 2 ou 3 dernières
années. Les 5 dernières années, on est passé en 2021 de 68 000 à 88 000.
Oui, alors les 68 000,
88 000
aujourd'hui. On était peut-être encore dans les faits des libérations post-Covid après, de Bilobé. Mais effectivement, en 2019, on devait être aussi dans ces eaux-là, donc avant le Covid. Alors, tous les pays de l'Occident constatent une hausse de la délinquance depuis le Covid. Ça, c'est une certitude. Tous les pays.
Ouais. Et pourquoi ?
Extrêmement compliqué à comprendre.
C'est curieux.
C'est certainement multifactoriel, mais il y a eu un bouleversement, une rupture. Je pense par exemple à la ville de New York, qui avait en 20 ans, en 30 ans, réduit son taux d'homicide et de criminalité de manière drastique, et qui est reparti à la hausse très fortement. Mais toutes les grandes villes des États-Unis sont reparties à la hausse à partir du Covid. Et donc moi, je me l'explique parce que je pense qu'il y a eu l'effet Jeux Olympiques, c'est ce que je pensais au début. Effectivement, je me suis dit, les tribunaux veulent faire en sorte que les Jeux Olympiques se passent bien. Vous vous souvenez, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais ça avait quand même c'était très prégnant dans l'esprit des pouvoirs publics. Donc je pense que c'est une explication. Mais je pense que la principale explication, c'est la suppression des réductions de peines automatiques par Dupond-Moretti, qu'il pensait contrebalancer avec l'allongement des autres réductions de peines possibles, mais qui n'ont visiblement pas été compensées. Et donc aujourd'hui, on a un certain embouteillage. Mais la première raison pour moi, c'est l'augmentation de la délinquance qui fait que naturellement, on a plus de gens en prison.
Allez, vous parliez à l'instant Pierre-Marie Sève qui est avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes le délégué général de l'Institut pour la justice, du laxisme, de la politisation surtout de certains juges. Évidemment, on ne parle pas de tous les juges, mais il y a une partie peut-être certaines décisions, certaines réactions peuvent s'expliquer par une politisation très forte. On va en parler juste après ça.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Franck Herriot, Philippe Charlez et Yves-Marie Sevilla. Tous les magistrats ne sont pas d'accord. Hein. On écoute Evelyne Cyr-Marin. Elle est magistrate, elle est ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Mmh. Et elle explique que la prison, bah, c'est pas la bonne réponse, Pierre-Marie Sève. Que ça coûte cher, que ça sert à rien. C'était ce lundi 1er juin sur France Info. Vous nous direz ce que vous en pensez.
La question des comparutions immédiates, c'est de savoir comment on entoure les gens si on ne les met pas en prison. Bon, voilà, le fait de mettre quelqu'un en prison, le problème qu'on a, c'est qu'il y a 88 000 personnes en prison et que ça coûte aux contribuables, à nous tous, 3 600 € par mois. Et ça ne sert à rien, pratiquement, puisque beaucoup, beaucoup récidivent. Donc, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Mmh. Je finis en disant que comment ça se fait qu'en France, on n'y arrive pas avec ces problèmes de violence, alors que dans plein d'autres pays d'Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, la Hongrie, la Pologne, il y a une doctrine de maintien de l'ordre qui est très différente de la France. On avait cette doctrine en France jusqu'en 2013, c'est-à-dire qu'on procédait à l'éloignement, en fait, des masses protestataires, des gens à problème. Et aujourd'hui, il y a plutôt une doctrine de l'affrontement. Et ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut réfléchir.
Voilà, donc Evelyne Cyr-Marin, magistrate, c'est l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature, c'est intéressant pour savoir d'où elle parle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Pierre-Marie Sève? Qu'est-ce
Alors
que
déjà,
vous en pensez?
Elle nous prend quand même tous pour des buses, parce que nous faire croire que l'extrême gauche se soucie de l'état des finances publiques, alors là, on nous dit son argument,
c'est vrai que c'est nouveau.
Et c'est, mais c'est vrai, mais c'est toujours comme ça. Les opposants à la prison nous parlent toujours du coût de la prison, alors que sur tous les autres sujets, ils n'en ont rien à faire, mais là, sur les prisons, là, subitement, ça coûte très cher et il y a urgence à rattraper des prisons.
Soudainement, ils veulent faire des économies.
Bref, ouais. Donc, elle nous prend pour des buses.
On supprime les prisons pour baisser de 2 ans l'âge de la retraite, c'est ça le...
Voilà, normalement,
c'est à
ça.
Peu près ça le, voilà, la ça. Logique.
Pour qu'il n'y ait plus de retraités.
Et, alors, ensuite, sur le fond... Je veux pas être méchant, mais cette dame est complètement déconnectée du monde réel. Ce qui n'est pas étonnant, parce que le syndicat de la magistrature, par définition, est déconnecté.
Pourquoi ?
Non. Déconnectée du monde réel, parce qu'elle nous dit que la prison ne sert à rien, puisque les gens récidivent. Alors déjà, je vous annonce qu'il n'y a pas une étude qui permet de savoir, depuis 100 ans, on essaie de réfléchir à ce qui fait baisser la récidive, on n'a jamais réussi. Il n'y a pas une étude qui permet de savoir si la récidive baisse vraiment. On n'en sait rien, ni la prison, ni les travaux d'intérêt général, ni le bracelet électronique. Il n'y a rien qui fonctionne ou qui dysfonctionne particulièrement. Les taux de récidive n'évoluent que très peu. Et encore, ils sont même plutôt à la hausse en France. La prison, son premier but n'est pas de réinsérer les délinquants en évitant qu'ils récidivent. La prison a pour premier but de neutraliser des délinquants qui, s'ils étaient en liberté, commettraient des crimes ou des délits. Tant qu'ils sont en prison, ils ne commettent pas ces crimes ou ces délits, ou en tout cas, pas à l'égard du grand public. Donc, je suis désolé pour cette dame qui, je sais pas, moi, c'est mon cours de droit pénal fondamental, on nous l'expliquait que la fonction, première fonction de la peine, c'est la neutralisation des délinquants. Voilà, c'est aussi bête que ça. Enfin, il n'y a pas besoin de...
Protéger la société, ça les préoccupe pas, ça.
Ça ne l'intéresse pas. Alors, eux vont vous dire, oui, mais comme la prison crée la récidive, puisque nous, notre but, c'est que... On veut protéger la société parce que... Mais bon, c'est complètement... disqualifié par la réalité des choses. Et évidemment qu'il y a une expérience à taille réelle qui démontre comment faire baisser la récidive, c'est la méthode Bukele au Salvador. La méthode Bukele, c'est l'exemple chimiquement pur, quand même assez difficilement reproductible.
Ouais, méthode
parce que
musclée.
C'est la méthode musclée. Il faut dire qu'il partait de très 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 loin. C'était un pays, on pouvait dire, c'était un pays en guerre civile contre les délinquants, puisqu'ils avaient des taux d'homicide de 3 ou 4 fois plus élevés que le deuxième pays de la liste, qui était déjà pas folichon. Donc, ils ont prouvé une seule chose. Quand on met les délinquants et les criminels en prison, il n'y a plus de délinquance ou de criminalité. Et on peut passer du pays le plus dangereux du monde au moins dangereux de son continent en mettant les criminels et les délinquants en prison.
C'est ce qui s'est passé pour Bukele.
Pour vous challenger, il y a quand même une limite, c'est la durée de la peine.
Pour vous contredire,
vous ne pouvez pas mettre les délinquants ad vitam aeternam en prison. Donc, il y a quand même un jour où ils ressortent et ils redeviennent dangereux.
Alors, ils redeviennent dangereux. Vous savez quel est le...
J'essaye de vous challenger un petit peu.
Mais vous avez raison. Gentiment. Je vous
challenger, ce n'est pas permis à Radio Courtoisie, Philippe Charlez. Vous mettrez une pièce dans le cochon.
Mais je vais vous répondre. Il y a les deux premiers facteurs facteurs de criminalité, c'est le sexe, premièrement. Bah oui, les hommes commettent beaucoup plus de crimes ou délits que les femmes. C'est un fait. Dans nos prisons, on a 3% de femmes. Et deuxièmement, c'est l'âge. Et donc, une des solutions qui pourrait être envisagée, c'est que les âges les plus criminogènes, c'est-à-dire autour de la vingtaine, les juges soient particulièrement sévères à cet âge-là, pour remplir ce besoin de neutralisation. Mais effectivement, de toute façon, que l'expérience en prison soit bien ou mal passée, bien d'habitude d'ailleurs...
On en sort un jour, non ?
On en sort un jour.
Sauf à quelques exceptions près.
Mais normalement, quand on en sort à 35 ans, on aspire, même les délinquants, l'immense majorité des délinquants, sauf les serial killers, qui sont des exceptions d'exceptions, même au sein de la population criminelle.
Oui, ça les a,
la grande majorité
ça les a vaccinés.
A autre chose à faire que d'avoir envie de craindre la police en permanence et de retourner en prison. Justement, et ceux qui y retournent quand même, bon, bah là, il faut effectivement taper à fond, puisque ce sont des gens visiblement indécrottables qu'il faudra gérer de manière extrêmement
dissuasive
pour retourner à la neutralisation.
Allez, Pierre-Marie Sève, on arrive presque au terme de du temps imparti, on n'a pas vu passer le temps. Avec vous, je voulais qu'on dise quand même deux mots de ce drame absolu. Vous avez fait référence à l'instant, celle de la petite Liana. On vient d'apprendre dans le cours de cette émission que le corps retrouvé dans le GR, c'était bien le sien. Voilà, il n'y avait pas énormément de... On s'en doutait un petit peu, mais c'est confirmé par l'autopsie. Est-ce que sur ce meurtre, on est vraiment là encore sur un cas qui dresse encore l'opinion contre les dysfonctionnements de la justice? Alors cette fois, même la politique et nos responsables politiques s'en sont saisis. Est-ce que ça peut faire bouger les lignes?
Là, effectivement, on sent qu'on s'approche d'un désastre judiciaire complet qui va être d'une très grande ampleur. Je suis peut-être le nez dans le guidon, mais j'ai quand même le sentiment là que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une affaire qui avait fait autant de bruit, une affaire judiciaire. Il y a l'affaire Philippine, l'affaire Lola, là, ces dernières années, mais qui va remettre en question pour de vrai... l'institution judiciaire, il est possible qu'on en arrive à un séisme du type Outreau, où effectivement il y avait une remise en question importante des règles de procédure pénale notamment.
Ça me rappelle un peu dans ma jeunesse l'affaire Patrick-Henri, je sais pas si vous...
Oui, bien sûr.
Qui est ressorti récemment.
Même Emmanuel Macron a dénoncé des dysfonctionnements. Je ne sais plus exactement quels sont ces termes exacts.
Parce que là, de fait, l'onde de choc est considérable.
C'est une cascade de dysfonctionnements qui vont de l'éducation nationale ou des choses pas du tout nettes. Par exemple, j'ai appris que cette petite fille passait 20 à 30 minutes tous les matins dans la voiture du suspect principal.
Devant les grilles de l'école.
Devant les grilles de l'école. Bon, ça aurait pu quand même lever quelques questions. Et puis, il y a évidemment les nombreux signalements, voire les dépôts de plainte pour des faits extrêmement graves qui avaient été faits à l'encontre du principal suspect et qui n'ont pas été suivis du moindre effet, puisque la dernière plainte datant d'août 2025 pour des faits très graves avec des constatations médicales de viol sur une autre petite fille de 11 ans. Il n'y a pas eu une seule audition depuis
cette
époque-là.
Il semble que c'était 7 ans les constatations de viol.
D'accord, c'est possible.
Oui, oui.
C'est donc des faits extrêmement graves. Décembre 2017, la première.
En tout cas, c'est épouvantable.
Il y a une faillite. C'est un désastre judiciaire qui s'annonce. Ça, c'est à peu près certain. Et ça pose effectivement plein de questions. Et je pense qu'il va falloir réfléchir à dans quel sens est-ce qu'on réforme notre justice pour ne pas connaître de cas similaires.
Il y a beaucoup de points d'interrogation, effectivement, et notamment il y a une circulaire de 2025 que vous devez connaître, j'imagine, sur le signalement, enfin la priorité à donner à ce genre d'affaires. Alors, est-ce que c'est suivi dans les parquets? Est-ce que c'est suivi dans les tribunaux? Il y a de quoi se poser la question. Et puis, deuxième question que j'aimerais bien vous poser, c'est le logiciel Cassiopée.
Oui, le fameux.
Mais est-ce qu'il sert à quelque chose ou pas? Puisque normalement, chaque plainte, pratiquement, ou chaque dossier est entré automatiquement dans le logiciel. Et il y a même des alertes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un... On se pose vraiment des questions sur le fonctionnement même de du système.
Alors, Cassiopée, si je ne me trompe pas, c'est un logiciel qui est déjà connu principalement pour être très mauvais. pour très mal fonctionner.
Vous l'appelez comment?
En Cassiopée.
Cassiopée, du nom de la constellation.
Voilà, du nom de la constellation, et qui a coûté une constellation d'argent public, puisqu'on l'imaginait à quelques millions, 1 ou 2 millions, et puis en fait ça a coûté des dizaines de millions d'euros, c'était une faillite complète pour quelque chose qui ne fonctionnait pas.
Il ne fonctionnait pas au début.
Voilà, il ne fonctionnait pas, et même encore aujourd'hui, j'ai souvent des témoignages de magistrats qui me disent que ça fonctionne très très mal. Donc j'ai cru comprendre que Cassiopée, c'est au niveau judiciaire. Et donc les policiers et les magistrats n'utilisent pas toujours les mêmes logiciels. Il y a en tout cas une imbrication des fichiers.
Je pensais au parquet de Doche.
Oui.
Ils ont les documents, enfin pour être très près.
Enfin, a priori, je suis pas, j'ai pas. L'inspection générale nous rendra son rapport là-dessus, mais effectivement, il y a quelque chose qui tourne pas rond, puisque normalement, tous les magistrats ont accès à ces données-là, et elles auraient dû, d'une manière ou d'une autre, quand on a autant de plaintes qui sont déposées, elles auraient dû à un moment donné parvenir aux oreilles de quelqu'un. Donc, certainement, je pense que les oreilles de la procureure d'Auche dans le Gers sont en train de siffler, à mon avis, parce qu'il y a visiblement un dysfonctionnement au sein de son parquet, peut-être au sein du parquet de Toulouse, puisqu'il y a eu une plainte avait été déposée dans un autre département, donc le temps qu'elle parvienne, enfin bref.
Le temps des transferts a été incroyablement long.
Voilà. Mais je vous rappelle qu'on fonctionnait par fax il n'y a encore pas si longtemps, donc c'est pas si étonnant non plus.
Il me semble avoir lu que le dossier était arrivé par la poste.
Oui, c'est ce que j'ai lu aussi.
Ce qui est très étonnant aussi, c'est le...
Entre les deux tribunaux.
En termes de signalement, donc ce suspect est licencié de l'éducation nationale, ou je ne sais plus ce qu'il fait. Il est licencié parce qu'il s'est livré à un certain comportement. Et donc, ce comportement suffisamment grave pour être licencié. Mais apparemment, pas suffisamment grave pour que ça soit remonté jusqu'à la justice.
Qui
est responsable Est-ce que c'est l'éducation nationale? Est-ce que c'est le proviseur du lycée? Est-ce que c'est un manque de pratique? De l'institution.
Question de Franck Ariot et réponse de Pierre Marisseur.
Il devrait y avoir plainte, et à partir du moment où il y a plainte, s'il y a une victime, c'est au parquet de s'en saisir. Et s'il ne s'en saisit pas, c'est lui qui commet une erreur, si derrière ça pose. Ça crée des drames comme celui qu'on a connu. Donc, et moi, je pense que de manière plus large que ça, parce que c'est le Gers, c'est quand même un département très rural que je connais un petit peu, dans lequel les gens se connaissent quand même relativement bien, hein, dans des villages ou des petites villes. Mais je pense qu'il faudrait que le grand public soit au courant quand on a des délinquants et des prédateurs sexuels, et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand une personne est inscrite au fichier des personnes, des agresseurs sexuels, enfin des délinquants sexuels, les employeurs potentiels ne sont pas toujours au courant. La justice est au courant et encore, parfois elle peut l'oublier, comme ça le démontre. Mais les voisins ne sont pas au courant. Et bien moi, je pense à un dispositif qui existe aux États-Unis.
Ouais.
Aux États-Unis.
C'est la question que j'allais vous poser le passeport.
Et on a la loi qui s'appelle Megan's Law. C'était une affaire dans les années 90 sous Bill Clinton, dans le New Jersey, où un homme condamné plusieurs fois pour des faits de pédophilie et de viol sur des mineurs s'était installé à côté d'une famille, et puis il avait violé et tué une petite fille dans le New Jersey. Ça a eu un grand retentissement national, et on a créé, grâce à cette loi Megan, on a créé la publicité complète des auteurs de crimes sexuels, et principalement des crimes sexuels sur mineurs. Et donc aujourd'hui, aux États-Unis, quand vous habitez dans un quartier dans lequel il y a un délinquant sexuel, eh bien vous pouvez le savoir, vous savez qui c'est, vous savez à quelle adresse il est, et vous savez qu'il faut se méfier. Et certes, c'est effectivement pas très... ça va suivre toute la vie une personne, mais étant donné la gravité de ces faits-là, les gravités que ça a sur les victimes, parce que ça détruit des vies, les viols sur les mineurs, ça détruit des vies
bien sûr.
À venir en plus, c'est encore pire. Je pense que ça, à mon avis, c'est le genre de mesure, la publicité, moi je trouve ça scandaleux.
C'est très anglo-saxon.
Oui, c'est scandaleux.
J'ai vécu en Écosse pendant 3 ans. En Écosse, quelqu'un qui est pris avec un taux d'alcoolémie supérieur à la norme au volant, son nom est publié dans le journal le lendemain matin.
Bien sûr, avec sa photo.
Avec sa photo. Ce que je veux dire, c'est dur en France d'en arriver là.
C'est certain.
Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que d'après...
Franck Ariot, pas tout son bâton.
Il faut préciser d'après les psychiatres que ce genre de déviance, entre guillemets, est difficilement soignable. C'est aussi pour ça qu'ils sont signalables et qu'il faut...
Oui, mais là, on en arrive pratiquement à dépanne.
On parle de castration chimique, mais
qui n'a pas l'air
toujours efficace.
Non, parce que dès qu'on arrête le traitement, et puis on ne va pas envoyer un policier tous les matins chez les gens.
On a des exemples multiples de récidives comme ça.
Voilà, on a souvent d'exemples de récidives. La castration mécanique, physique, existe dans certains États américains. Bon, je sais pas. T'es pas obligé d'arriver à cette extrémité-là, mais simplement savoir qui dans votre quartier a été condamné.
Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui seraient favorables. En tout cas, beaucoup de nos auditeurs.
Oui, je pense. Je pense. Okay. Mais quand bien même on saurait dans notre quartier qui a été condamné pour des faits aussi graves, bon, au moins on aurait une précaution qui nous permettrait d'être un peu rassuré, d'éviter certainement des drames.
On se demande parfois qui protège la société, qui nous protège de fait.
Non. Absolument, mais bien souvent c'est nous-mêmes. Ouais. On est obligé de compter sur nous-mêmes.
Exactement. Pierre Marisset, vous êtes le délégué général de l'Institut pour la Justice. Merci beaucoup de nous avoir éclairé. C'était passionnant. Vous connaissez ces dossiers absolument par cœur. On était très heureux de vous avoir ce soir pour traiter de ces cas d'actualité assez dramatiques.
Oui.
Très dramatiques pour cette petite jeune fille qui vient d'être retrouvée. Dont on vient d'identifier le cadavre et tout à fait dramatique aussi pour les casseurs qui, après match, ont une fois de plus, et c'est pas la dernière, malheureusement, saccagé notre
capitale.
Vu les
peines, ça sera pas la dernière, effectivement.
Vu les peines, les peines n'ont pas été dissuasives. Allez, quelques mots d'auditeurs, deux mots d'auditeurs parmi tous ceux qui nous ont écrit, d'accord avec ce qui est dit, mais ne pas oublier que le foot, et on parlait de la rémission par le sport, ne pas oublier que le foot est aussi un vecteur de radicalisation, notamment de radicalisation dans l'islam, qu'il ne faut pas oublier, nous dit cet auditeur, il a raison. Et un autre auditeur nous dit « Depuis quelques années, les élus et les politiciens ont mis à la charge du juge de décider s'il y a lieu de porter les affaires en justice ou de les classer sans suite. Or, les juges sont débordés car il y a un problème de moyens pour traiter les dossiers. Beaucoup de juges archivent les dossiers et les politiques sont bien contents car ça fait moins de dépenses. » Voilà ce que nous dit cet auditeur. Là aussi, Pierre Marisset, je suis pas sûr qu'il ait complètement tort. On est d'accord. Merci Pierre Marisset. Nous allons sourire un peu et parler du vol de cette banane à 6 millions d'euros qui interroge la banane. C'est la dernière dinguerie de l'art contemporain. On va en parler avec Samuel Martin qui est rédacteur en chef à Boulevard Voltaire. Et puis nous aurons aussi Marie-Lise qui est une artiste peintre et qui est complètement révoltée par ce genre d'arnaque.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Franck Herriot, Philippe Charlez et Yves-Marie Sévilla, on évoque des sujets secondaires alors qu'il y a de vrais drames chez nos amis amateurs d'art. Il était 14h le samedi 30 mai au centre Pompidou-Metz. Lorsque la nouvelle est tombée, l'œuvre Comédia, signée Maurizio Cattelan, vient d'être défigurée. Cette œuvre, c'est une banane qui est scotchée à un mur. Le voleur a pris la banane, c'était l'élément périssable de l'œuvre.
Je vais me sentir coupable à chaque fois que je prends le défi.
Voilà, Franck Herriot se sent coupable. Et donc ce voleur a pris ses jambes à son cou, il a simplement laissé l'adhésif et il a mangé la banane. Rappelons que cette banane est changée tous les jours pour qu'elle ne pourrisse pas sous le scotch qui la retient, et que cette œuvre, Comédia, donc, vaut plus de 6 millions d'euros, tenez-vous bien. Et donc, Samuel Martin, vous vous êtes penché sur ce drame, qui est vraiment symptomatique de l'absurdité de l'art contemporain. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette œuvre et qu'est-ce qu'elle faisait là?
Eh bien, qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle est dans le cadre d'une exposition du centre Pompidou-Metz, organisé par Maurizio Cattelan lui-même. Il a une carte blanche pendant deux ans.
L'artiste,
Voilà, c'est l'artiste, on va en parler un petit peu après. Et donc, dans ce parcours qui se veut irrévérencieux, il est assez conforme à tout ce qu'on attend de l'art contemporain, en fait, c'est pas irrévérencieux du tout. Il y a cette banane scotchée au mur, qui est une œuvre, donc, qu'il a créée il y a une vingtaine d'années. Il y a une dizaine d'années.
Ouais, et qui 2019, valait.
Voilà, 2019, ça, exactement. 2019, et elle avait été vendue à l'époque, la première version de l'œuvre avait été vendue 120 000 euros.
Ouais.
Et donc, 7 ans plus
tard. C'est déjà cher pour une banane et un scotch.
Cher, Vous êtes pragmatique.
Il n'a même pas changé de fruit.
Si, si, alors le fruit est changé régulièrement parce que tout le monde le sait.
Mais c'est toujours une banane.
C'est toujours une banane.
D'accord,
c'est
toujours une banane. Pas...
Non, non, c'est toujours une banane avec un scotch gris.
Ah, c'est ça.
Et c'est donc, pas la même banane. La valeur de l'œuvre a été multipliée par 60 en 7 ans. Donc on peut rigoler, mais le placement en tant que placement, on peut dire respect.
Ouais, ouais.
Voilà. Alors Mauricio Cattelan, pour situer un peu, c'est un Italien né en 1960. Il s'est fait connaître par plusieurs œuvres, une effigie en cire grandeur nature de Jean-Paul II écrasée par une météorite.
Ah, c'était voilà, lui. C'était incroyable, lui. Je me souviens de cette...
Il avait récidivé avec un Adolf Hitler agenouillé et demandant pardon. Voilà, pareil, en cire. Et puis, il a fait aussi un gigantesque doigt d'honneur en marbre de 11 mètres de haut qui est à Milan et qui, de profil, fait un salut fasciste. Enfin, voilà, on voit toute la dénonciation d'un homme très, très célèbre dans le milieu, vendeur.
Il a poussé la provocation, il a compris le système de la provocation médiatique.
Il a complètement compris le système. Et donc sa banane, mais c'est sa banane qui l'a fait connaître quand même du grand public.
Ouais.
Il faut savoir qu'il avait été accusé de plagiat par un plasticien américain qui lui avait scotché une banane et une orange.
Ah.
Voilà. Mais la justice a tranché et a décidé que l'œuvre de...
On
est dans l'art contemporain, que l'œuvre de Cattelan n'était pas un pastiche parce que lui n'avait pas peint le mur derrière. Alors que l'Américain, derrière la banane scotchée et l'orange scotchée, il y avait de la peinture.
Il l'a échappé belle.
À quoi ça tient?
Donc non seulement c'est grotesque, mais en plus il l'avait copié.
La justice a dit que non.
Mais bon,
et après on trouve que les magistrats sont trop occupés.
Alors j'ai vu qu'il vantait quand même, c'est votre ami Maurizio Cattelan, une exposition qui bouscule les codes de l'exposition, un laboratoire ou chef-d'œuvre, créations inattendues et gestes subversifs succèdent.
C'est la présentation qu'en fait le centre Pompidou-Metz, mais ça relève du lieu commun de l'art contemporain. On pourrait décrire à peu près toutes les expositions d'art contemporain avec les mêmes mots, bousculer les codes, subversif, on interroge tout ce que vous voulez. Ça fait partie du langage obligé en la matière pour avoir l'air un petit peu sérieux.
Alors on va appeler tout à l'heure notre amie Marie-Lise là, qui est un peu révoltée, qui est artiste peintre et qui est révoltée par cette histoire. Mais d'abord, est-ce que le centre Pompidou, pour la première fois, généralement on laisse passer tout ça crème, comme disent les jeunes, mais là le centre Pompidou-Metz a porté plainte pour le vol de la banane.
A déposé plainte auprès des autorités Samuel compétentes. Martin.
Ouais. Peut-être qu'on aurait une chance de la retrouver, contrairement au joyau de la couronne.
Alors vous avez dit, qu'elle avait été mangée.
On ferait pas l'échange pourtant.
Vous avez dit que la banane a été mangée. Dans le passé, elle a déjà été mangée plusieurs fois.
Ah.
Mais ce qui est pas un mal, parce que ça fait monter le prix de l'œuvre. On en parle et donc la cote monte. Ici, on ne sait pas ce qui est arrivé. L'enquête le dira peut-être. L'enquête dira peut-être si la banane a été mangée, jetée.
On comprend pourquoi ils ne courent pas après les délinquants. Ils se penchent sur les affaires de banane.
C'était un chimpanzé qui s'est échappé d'un zoo.
Voilà,
peut-être.
Serons-nous. Mais donc, le centre Pompidou-Metz, effectivement, a publié un communiqué. Alors, il y a des choses drôles, puisqu'il parle de la disparition de la banane constituant l'élément périssable de l'œuvre.
Oui, c'est ce qu'on disait. Oui, c'est l'élément périssable.
C'est l'élément périssable de l'œuvre. Le scotch, lui, est moins périssable, quoique on ne sait jamais, sur le plus long terme.
Ouais.
Mais surtout, ce qui est intéressant, et là on va être un petit peu plus sérieux, le centre Pompidou-Metz rappelle que la valeur de l'œuvre réside dans son certificat d'authenticité et dans le protocole qui régit sa présentation, plutôt que dans son élément périssable. Donc là, on est dans le concept. En fait, ce qui est matériel, c'est la banane, le scotch, tout ça, ça ne compte pas. Et on est bien d'accord que artistiquement ça ne compte pas beaucoup, mais ce qui fait que on a quelque chose qui a de la valeur en main, c'est
6 millions d'euros
actuellement, c'est ce certificat d'authenticité, c'est le protocole qui dit comment installer la banane avec quel scotch et de quelle façon. Donc on est très près en fait d'un produit financier. beaucoup plus que d'une œuvre d'art. Mais oui, ça, mais on l'avait compris.
Un produit financier qui repose sur rien.
Qui repose sur rien, mais qui n'empêche, marche.
Nous avons au téléphone Marie-Lise. Marie-Lise, vous êtes psychologue clinicienne et artiste peintre. Hein, vous avez pignon sur rue, vous avez beaucoup exposé à l'étranger, notamment. Et vous aviez écrit en 2024 dans Boulevard Voltaire un article qui était consacré à cette fameuse banane et qui s'intitulait, votre article, Art contemporain, le prix de la banane a flambé. C'est le titre était bien trouvé. Bravo, bonjour Marie-Lise.
Oui, bonjour.
Et alors, vous dénoncez, je vous ai eu au téléphone récemment, et vous dénoncez ce que vous appelez l'imposture de l'art contemporain. Là, c'est quand même, on a quand même là un cas d'école, non?
Non, mais c'est-à-dire que un cas d'école, il y en a de très nombreux.
C'est vrai, c'est pas le seul.
Vous en citez beaucoup, dont notamment l'installation de Artus Bertrand sur la place de la Concorde, avec ses grandes panneaux photographiques, exposition qui a été saccagée. Et puis peut-être alors avec l'argent public, hein, ça on quand même on peut se poser la question.
Oui, parce qu'il y en a toujours beaucoup.
Après le saccage, il a dit que c'était pas grave et qu'il appelait les citoyens volontaires à venir réparer les dégâts. Mais donc
au moins il y avait des photos, quelque chose était représenté.
Ouais.
Oui, quelque chose était représenté, mais ce que je veux dire, c'est toujours dans une espèce de grandiloquence et avec tout un cinéma médiatique qui est quand même extrêmement révélateur, je dirais, de la médiatisation et de la, je dirais, de la politique même de l'art. Également, je peux faire allusion à l'installation, l'emballage du Pont Neuf à Paris par l'artiste J.R., un artiste probablement de gauche, d'ailleurs.
Oui, parce que vous dites, Marie-Lise, que...
qui est très importante, a été déchirée par l'orage. Donc même le ciel n'est pas d'accord.
Oui, c'est ça, le ciel s'y oppose. Et vous dites que, que c'est un milieu qui est vérolé par l'extrême gauche, la gauche bien pensante. Hein. Et on retrouve un peu tout ça. Il y a en même temps beaucoup d'argent et beaucoup d'idées politiquement correctes, hein, c'est ça
beaucoup de... Oui, il y a beaucoup. C'est-à-dire que on sait très bien, c'est pas trahir je ne sais quel secret, que le monde de l'art, et spécialement en France, est vraiment, complètement enserré et contrôlé par une idéologie de gauche. Et que si vous n'êtes pas de gauche, eh ben vous êtes de toute façon pas dans la tendance et pas dans la bien-pensance qu'il convient. Mmh. Et l'art conceptuel participe également de cette exactement de la même tendance. C'est-à-dire que l'art conceptuel est quand même une imposture qui est dénoncée par nombre de gens très compétents, notamment une collègue qui s'appelle Aude de Kéros et qui a écrit plusieurs livres là-dessus.
Oui, absolument, remarquable.
Qui a fait tout un historique comme quoi Paris, il y a déjà des dizaines d'années en arrière, a laissé la place de Paris, qui était une place où les artistes venaient se former, une place reconnue, où il y avait vraiment une vie artistique et tout un pool d'artistes très, très vivace. Et donc, la politique parisienne a laissé la place de Paris à New York. Et donc, il y a eu un grand creux, quoi. Enfin, et donc, maintenant, il semble qu'avec avec Art Paris au Grand Palais, on a aussi les mêmes discours. Il faut essayer d'abord de rentabiliser le lieu, mais aussi surtout d'inviter des gens qui sont quand même dans une espèce de mode, une mode qui est dictée par une politique de gauche et qu'il convient de suivre, que ce soit au niveau écologie,
beaucoup d'argent derrière, hein, quand même. Hein. Pas que de la mode, on n'est pas que dans l'amour de l'art, là, hein, non. Parce que
on n'est surtout pas dans l'amour de l'art, on est dans l'amour du vide, vide, du non-sens et de l'éphémère, du consommable et jetable. La banane, elle est jetable, elle est remplaçable, elle pourrit, Donc, quand elle pourrit, il faut la remplacer. C'est du jetable et remplaçable. C'est une poubelle. C'est pas de l'art, c'est une poubelle.
On est loin de la Joconde.
C'est soi-disant intellectuel. C'est soi-disant conceptuel. C'est un art de la déconstruction. C'est ça qui convient, un art de la déconstruction.
On va y en revenir. Je poserai la question à Samuel Martin. C'est vrai qu'il y a quelque chose de parfaitement destructeur à la fois de la société et de l'art. Mais avant, Yves-Marie Sévillard.
Oui, non, je me faisais simplement effectivement cette réflexion pour rebondir. C'est que c'est un marché qui draine des millions d'euros d'argent public, et notamment ça me faisait penser au 1% culturel. Vous savez, effectivement, aujourd'hui en France, remonte à 1951, mais bon, l'art a aussi évolué, donc il est l'art contemporain est quand même d'une pauvreté assez abyssale au-delà de cet exemple. C'est qu'effectivement, quand vous avez un marché public, une construction, vous avez 1% d'argent qui doit être consacré par la collectivité à une œuvre d'art contemporaine. Donc voilà, vous dépensez 1 million d'euros de travaux, quelle que soit effectivement la ville ou la collectivité, que ce soit l'État, la région ou le département, il doit consacrer 100 000 euros à la création d'une œuvre qui sera présente sur le site.
Ce que je dénonce, c'est qu'il y a un entre-soi.
Est très présent.
Il y a un entre-soi. Il y a un entre-soi, il y a des artistes qui ne produisent rien et qui touchent de l'argent. Et ça, c'est quand même pas souhaitable. Ce que je veux dire, c'est que, si on compare les choses, la collusion de certains artistes avec aussi un entre-soi et le monde de la finance, par exemple, les vitraux de Notre-Dame de Paris qui a brûlé, il s'agit de vitraux qui ont été, je dirais, miraculeusement épargnés par le feu, et qu'il s'agit qu'on a avec l'autorisation de tous ces politiques, qui ont été les vitraux d'origine qui ont été épargnés par le feu vont être remplacés par des vitraux entre guillemets actuels qui seront fabriqués par l'artiste Claire Tabouret. J'ai vu les vitraux, très sincèrement, c'est assez ça pose question et on se demande
c'est un scandale absolu, on peut le dire.
Non, mais dans un même lieu, on restaure Notre-Dame de Paris et en même temps, dans un même lieu, on enlève des vitraux d'origine qui ont résisté au feu pour les remplacer par
des vitraux de Viollet-le-Duc. Merci beaucoup, Marie-Lise, de nous avoir éclairé et de nous avoir rejoint.
Il y aurait beaucoup à dire.
Ah oui, il y a beaucoup à dire.
Ça prendrait plus de temps.
Voilà, on en reparlera.
Les constructions, oui. Ok.
On en reparlera. Vous reviendrez nous en parler. À bientôt, Marie-Lise. Merci de nous avoir éclairé.
Je me tourne
vers vous, Samuel Martin. C'est quand même un art destructeur, non ?
Ah oui. Alors, Madame Charles parlait du vide. Je peux vous parler du carré de vide qu'a vendu en 2021 notre artiste italien Salvatore Garo. Il a vendu du vide. Alors, il y avait au sol une démarcation en scotch encore. Je ne sais pas pourquoi le scotch les occupe autant. D'1,50 m sur 1,50 m. Et on achète le vide qui est dans cette surface d'1,50 m.
Ah non, mais c'est vraiment...
Ce vide s'est vendu 15 000 euros. Et l'acquéreur, parce qu'il y a du vide, on parlait tout à l'heure du certificat, il est parti avec un certificat de garantie et d'originalité, d'authenticité, comme ça se fait pour toutes les œuvres.
Le certificat est plein ?
C'est du vide.
Le certificat est plein ?
Le certificat, oui, il est rempli, parce que c'est là, l'argent est là. Et je pense qu'il espère un jour revendre son carré de vide avec une bonne plus-value. Voilà. Donc le vide, il est là, au-delà de la banane même, vous voyez ?
Ouais. C'est quelque chose de vraiment profondément destructeur quand on pense qu'il y a des artistes qui ont travaillé des nuits et des jours, artistes.
Qui ont fait des œuvres basées sur la contemplation, ont faites avec un savoir-faire artisanal et pratique pour qu'elles durent dans le temps. Et là, on est exactement dans l'inverse. On est dans la déconstruction, l'immédiateté, le périssable, comme le dit lui-même le Centre Pompidou-Metz.
Ouais. Voilà, et ça sera tout pour la banane pour ce soir. On arrive au... Je voulais, si, d'abord, avant de parler de nos petits clins d'œil culturels, vous donner quelques réactions d'auditeurs qui sont très nombreux ce soir. Il n'y a pas que dans l'audiovisuel qu'il faut regarder les dépenses de l'État, nous dit-il. Alors, pourquoi dans l'audiovisuel, plutôt dans l'art, pour avoir suivi le développement de deux logiciels payés par l'argent public, j'ai fini par me demander s'ils étaient écrits par des stagiaires. Donc, de fait... L'argent public est toujours... Ah oui, mais là, on parle du logiciel Cassiopée, sans doute du logiciel de police qui était très mal fait. Et de fait, on se demande parfois si l'État regarde vraiment ce qu'il achète. Il y a 70 ans, nous dit un autre auditeur, il y avait des prisons insalubres, les bagnes de Cayenne, la peine de mort. Aujourd'hui, il y a 88 000 détenus, mais ils ont des portables, ils ont la télévision, ils ont Internet, ils ont des ordinateurs, des salles de sport, des salles d'amour, dit-il, des orties culturelle. La crainte de la prison existe-t-elle dans la tête du futur délinquant? De fait, on peut se poser légitimement la question. Allez, le clin d'œil culture, c'est très rapide. Alors, comme j'ai été bâillonné les dernières fois, je vous donne mon petit clin d'œil culture parce que j'ai peur que la date passe. Hein, depuis le 5 mai 2026, c'est au Grand Trianon, donc à Versailles, il y a une exposition qui s'appelle « Jardin des Lumières ». 1750-1800, et qui nous invite à découvrir les jardins paysagers au XVIIIe siècle. Alors, c'est près de 160 œuvres. Il y a des peintures, dessins, mobiliers, projets d'architecture, costumes. C'est la naissance d'un art du paysage qui s'affranchit des règles du jardin à la française. C'est magnifique. Il fait beau de plus en plus. On a envie d'observer et d'admirer des jardins par le temps qui fait, là, avant l'été. C'est le moment, c'est le printemps, c'est l'époque où ils sont les plus beaux. Et donc, je vous recommande ces jardins qui avaient été commandés par Marie-Antoinette au petit Trianon et qui tous ces tableaux retraduisent donc cette mode qui était née en Angleterre dans les années 1730 et qui représentait une nouvelle manière de penser le jardin un peu géométrique à la française, etc. Allez, restons courtois du vendredi, c'est fini. Merci à vous tous dans le studio, merci à la technique, merci chers auditeurs de nous avoir suivis, accompagnés, commentés. Heureux d'avoir passé ces deux petites heures en votre compagnie, comme Boulevard Voltaire, vous le savez, Radio Courtoisie reste un miracle permanent et fragile qui ne vit que de dons. Aider Radio Courtoisie, c'est aider Boulevard Voltaire dans le climat actuel, c'est un devoir. Vous retrouverez lundi Restons Courtois avec Pierre-Alexandre Bouclet, mardi avec Richard Decèze, mercredi avec l'excellent Arthur de Vatrigan, jeudi avec Marc Hainaut. Nous, on se retrouve le vendredi 12 juin, même heure, même adresse, Restons Courtois, 17h30, 19h30. Sur Radio Courtoisie, avec Boulevard Voltaire et toute la joyeuse bande, on parlera, tiens, du mystère Marine Le Pen. C'est le titre du livre passionnant d'Hubert Coudurier, qui paraît aux éditions Plomb. On sera avec lui ici, je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà hâte.
Ça suffit maintenant !